Tech 7, persona non grata à Langrune-sur-Mer, Nicolas Roca.
Radio G, 101.5 FM.
À court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découvertes littéraires. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bon samedi à tous ceux qui m'écoutent en ce début de week-end. Bonne journée à ceux qui m'écoutent un autre jour. Et bienvenue pour une nouvelle découverte littéraire. La 20e depuis le début de mon émission en septembre. Le temps passe vite. Les deux dernières semaines, nous avions fait la découverte du roman « Le soleil des rebelles » de Luca Di Fulvio. Un roman à l'ambiance historique qui nous avait plongé dans la chute d'un prince au 15e siècle. Vous pouvez toujours retrouver dès maintenant les deux émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre. Et cette semaine, je vais vous plonger dans un roman assez court, de par le temps sur lequel se déroule l'histoire. 24 heures, c'est tout. Le roman en question s'appelle « Et ils meurent tous les deux à la fin », écrit par Adam Silvera. Le titre divulgage la fin, comme diraient nos amis québécois. Cette histoire, à ambiance romantique, a comme fond le décompte de deux jeunes garçons dont il ne reste plus que 24 heures à vivre. Mais je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. Le titre n'est pas le seul à nous dire comment le livre se termine. Je vous laisse avec cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Première partie, Deathcast. 5 septembre 2017, Matteo Torres. Minuit 22. C'est dingue. Il y a une minute encore, j'étais en train de lire un billet sur les décompteurs. Un blog sur lequel les déqueurs racontent en détail leurs dernières heures, en publiant des statuts et des photos via des fils d'actualité en temps réel. Le post daté d'hier avait été écrit par un étudiant en troisième année de fac qui essayait de trouver un nouveau foyer pour son Golden Retriever. Et maintenant, c'est moi qui vais mourir. Oui, j'ai du mal à respirer. Je vais mourir aujourd'hui. J'ai toujours eu peur de mourir. Et je ne sais pas pourquoi je pensais que ça n'arriverait pas. Justement parce que j'avais peur. Pas maintenant, évidemment, mais dans suffisamment longtemps pour que je puisse vieillir. Papa m'a même rabâché qu'il fallait que je m'imagine être le héros d'une histoire. Quelqu'un à qui il n'arrive jamais malheur et surtout qui ne meurt pas. Parce qu'il doit rester dans les parages pour sauver le monde. Le vacarme dans ma tête s'atténue. Et à l'autre bout de la ligne, le messager de Deathcast attend de m'annoncer que je vais mourir aujourd'hui, à l'âge de 18 ans. Waouh, je vais vraiment... Je n'ai pas envie de décrocher. Je voudrais courir dans la chambre de papa et hurler des insultes dans un oreiller, parce qu'il a choisi le mauvais moment pour se retrouver en soins intensifs, ou donner des coups de poing dans un mur parce que ma mère est décédée en me mettant au monde, et qu'elle m'a ainsi destinée à une mort prématurée. La sonnerie du téléphone retentit pour la 30e fois peut-être. Je ne peux pas l'éviter, et je ne peux pas non plus éviter ce qui va se produire aujourd'hui. J'écarte mon ordinateur portable, posé sur mes jambes, croisé, et je me lève de mon lit en chancelant, tellement je me sens faible. Je me dirige vers mon bureau en traînant des pieds, comme un rôdeur de Walking Dead. Bien sûr, le nom qui s'affiche sur l'écran est Deathcast. J'ai beau trembler comme une feuille, j'arrive quand même à appuyer sur la touche « Répondre ». Je ne dis rien. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je me contente de respirer, parce qu'il me reste moins de 28 000 respirations. C'est le nombre moyen de respirations quotidiennes d'une personne non mourante. Alors, autant en profiter tant que j'en suis encore capable. Bonjour, ici Andrea, de Deathcast. Vous êtes là, Timothy ? Timothy, je ne m'appelle pas Timothy. Vous faites erreur sur la personne, je dis à Andrea. Les battements de mon cœur se calment, même si je me sens mal pour ce Timothy. Moi, c'est Matteo. Je tiens ce nom de mon père, et plus tard, il voudrait que je le transmette à mon tour. Maintenant, je pourrais le faire, si j'ai un enfant un jour. À l'autre bout du fil, je l'entends pianoter sur un clavier, sans doute pour corriger le nom ou un autre paramètre dans sa base de données. Oh, je suis désolée, Timothy est le monsieur que je viens d'avoir au téléphone. Il n'a pas très bien pris la nouvelle, le pauvre. Vous êtes Matteo Torres, c'est ça ? Et juste comme ça, mon dernier espoir est anéanti. Matteo, veuillez me confirmer qu'il s'agit bien de vous. J'ai malheureusement encore beaucoup d'appels à passer ce soir. J'avais toujours imaginé que mon héros, c'est leur nom officiel, ce n'est pas moi qui les appelle comme ça, aurait une voix compatissante et qu'il m'annoncerait la nouvelle avec douceur. Peut-être même qu'il me répéterait à quel point c'est tragique de mourir si jeune. Pour être honnête, ça ne m'aurait pas dérangé qu'Andrea soit plus enjouée, qu'elle me dise de m'amuser et de profiter au maximum de ma dernière journée. Puisque, au moins, je sais ce qui va m'arriver. Comme ça, je ne resterai pas enfermée à la maison, à commencer des puzzles de 1000 pièces, que je ne finirai jamais, ou à me masturber parce que j'ai peur de coucher avec une vraie personne. Mais cette dame au téléphone me donne l'impression que je lui fais perdre son temps, parce que contrairement à moi, elle en a plein. D'accord, c'est moi, Matteo. Je suis Matteo. Matteo, j'ai le regret de vous informer qu'à un moment donné, dans les prochaines 24 heures, vous allez être frappé par une mort prématurée. Et même si nous ne pouvons rien faire pour empêcher cela, vous avez encore une chance de vivre. Elle me rebat les oreilles avec le fait que la vie est parfois injuste. Puis elle énumère une liste d'événements auxquels je pourrais participer aujourd'hui. Je ne devrais pas lui en vouloir, mais on sent qu'elle est fatiguée de réciter ces lignes, gravées au fer rouge dans sa mémoire, à force d'avoir répété à des centaines et peut-être des milliers de gens qu'ils allaient bientôt mourir. Elle n'a aucune compassion à m'offrir. Elle est sans doute en train de se limer les ongles ou de jouer au morpion toute seule au téléphone. Sur les décompteurs, des décœurs publient des billets pour raconter le déroulement de leur jour final, en partant du coup de fil fatidique. En gros, c'est Twitter pour les décœurs. J'ai lu des tonnes de posts dans lesquels certains avouaient avoir demandé à leur héros de leur révéler les circonstances de leur mort, même si c'est bien connu que personne n'a accès à ces informations. Pas même l'ancien président Reynolds, qui a essayé d'échapper à la mort en se cachant dans un bunker souterrain, il y a 4 ans, et a fini assassiné par un agent de ses propres services secrets. Deathcast peut uniquement révéler la date de mort de quelqu'un, mais pas la minute exacte ni la cause du décès. Vous comprenez tout cela ? Ouais. Connectez-vous sur deathcast.com pour indiquer d'éventuelles demandes spéciales pour vos funérailles, ainsi que l'inscription que vous souhaiteriez voir gravée sur votre pierre tombale. Et Timothy, toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, d'accord ? Je m'appelle Matteo. Je suis désolée, Matteo, je suis mortifiée. La journée a été longue et ses appels sont parfois tellement stressants et... Je lui raccroche au nez, ce qui est mal poli. Je sais. Mais je ne peux pas continuer à l'écouter me parler de sa journée stressante alors que je risque de mourir dans l'heure, voire dans les 10 prochaines minutes. Je pourrais m'étouffer avec une pastille contre la toux ou sortir de mon appartement pour enfin commencer à vivre et me briser le cou dans l'escalier avant même d'être arrivé dehors. Ou quelqu'un pourrait entrer par effraction chez moi et m'assassiner. La seule mort que je peux exclure avec certitude est une mort de vieillesse. Je me laisse tomber par terre, à genoux. Tout va se terminer aujourd'hui et je n'ai aucun moyen de l'empêcher. La mort est inévitable, pour tout le monde, et aujourd'hui c'est une certitude absolue pour moi. La liste des gens qui vont me manquer, si les morts peuvent ressentir le manque, est tellement courte qu'elle ne mérite même pas le nom de liste. Il y a papa, parce qu'il fait de son mieux, ma meilleure amie, Lydia, parce qu'elle ne m'a pas ignorée dans les couloirs du lycée, qu'elle s'asseyait en face de moi au déjeuner et faisait équipe avec moi en cours de SVT, et parce qu'elle me parle de son rêve de devenir écologiste et de sauver le monde, en m'affirmant que je pourrais la remercier en y vivant. Et c'est tout. Si quelqu'un me demandait la liste des gens qui ne me manqueront pas, je n'aurais aucun nom à donner. Personne ne m'a jamais fait de mal. Et je comprends même pourquoi certaines personnes n'ont pas essayé. Vraiment, je comprends. Je suis tellement pitoyable et parano. Les rares fois où des camarades m'ont proposé quelque chose de sympa, genre faire du roller dans le parc ou une virée en voiture tard le soir, je me suis défilée parce qu'on risquait de s'exposer à la mort. Peut-être. Je pense que ce qui me manquera le plus, ce sont toutes les occasions ratées où j'aurais pu vivre ma vie et me faire des super copains. Ça me manquera qu'on n'ait jamais eu l'occasion de créer des liens, en faisant des soirées pyjama, à rester debout toute la nuit pour jouer à la Xbox Infinity et à des jeux de société. Tout ça parce que j'avais trop peur. La personne qui me manquera le plus est futur Matteo, qui a peut-être fini par se décoincer et par vivre sa vie. Même si c'est difficile de se le représenter clairement, j'imagine que futur Matteo est quelqu'un qui tente des expériences, comme fumer des joints avec ses potes, passer son permis de conduire et sauter dans un avion pour Porto Rico afin d'en apprendre plus sur ses racines. Peut-être qu'il sort avec quelqu'un, et peut-être qu'il aime la compagnie de cette personne. Je le vois bien jouer du piano pour ses amis et chanter devant eux. Et il y aurait certainement beaucoup de monde à ses funérailles. Malheureusement, je ne deviendrai jamais futur Matteo. Je m'écroule de nouveau par terre, en me disant que pour moi, maintenant, c'est marche ou crève. Même pas en fait, c'est marche puis crève. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman « Et ils meurent tous les deux à la fin » de Adam Silvera. Bonne écoute! Rufus et Météryo, 1h05. Quand Descast m'appelle, je suis en train de tabasser à mort le nouveau copain de mon ex-copine. À califourchon sur le mec, je le cloue au sol avec mes genoux sur ses épaules et si je ne lui ai pas défoncé l'autre œil, c'est uniquement parce que mon téléphone s'est mis à sonner dans ma poche. C'est la sonnerie assourdissante de Descast, que les gens ne connaissent que trop bien, par leur propre expérience, les actualités ou l'une de ces émissions pourries qui se servent de cette alerte pour mettre un peu de suspense. Mes potes Tagoué et Malcolm ont arrêté de m'encourager à bastonner. Il y a un silence de mort et j'attends que le téléphone de ce bouffon de pec se mette aussi à retentir. Mais rien ne vient. On n'entend que celle de mon portable. Peut-être que l'appel qui va m'annoncer que je suis sur le point de mourir vient de lui sauver la vie. « Il faut que tu décroches, Rouf », lance Tagoué. Il était en train de filmer parce que c'est son truc de mater des vidéos de bagarres sur Internet. Et maintenant, il regarde fixement son écran, comme s'il avait peur de recevoir un appel à son tour. « Hors de question », je dis. Mon cœur bat à toute blinde dans ma poitrine. Encore plus que quand je me suis approchée de Peck, et encore plus que quand j'ai commencé à le cogner et que je l'ai mis KO. Il a l'œil gauche déjà enflé. Et dans le droit, on ne lit rien d'autre que de la terreur. Les appels de Descast sont particulièrement nombreux, jusqu'à 3h du matin. Et il se demande si je vais l'entraîner dans ma chute. Moi aussi. Mon téléphone arrête de sonner. Peut-être que c'était une erreur, suggère Malcolm. La sonnerie repart de plus belle. Malcolm ne dit plus rien. J'avais pas vraiment d'espoir. Je connais pas les stats ni ce genre de truc, mais c'est pas comme si Descast se plantait souvent. Ça se saurait. Nous autres, et Météryo, on n'a pas vraiment de bol question longévité. En revanche, pour rendre l'âme bien avant l'heure, là, on assure grave. Je tremble et la panique fait bourdonner ma tête, comme si quelqu'un me bourrait de coups de poing. Parce que j'ai aucune idée de comment je vais partir. Je sais juste que je vais partir. Ma vie n'est pas vraiment en train de défiler devant mes yeux, même si je m'attends pas non plus à ce que ça arrive plus tard, quand je serai vraiment à deux doigts de clamser. Peck se tortille sous moi et je lève le poing pour qu'il se tienne tranquille. Peut-être qu'il est armé, fait remarquer Malcolm. C'est le géant de notre groupe, le genre de mec qu'il aurait été utile d'avoir avec soi le jour où notre bagnole est tombée dans l'Hudson et où ma sœur n'a pas réussi à détacher sa ceinture. Avant l'appel, j'aurais été prêt à jurer sur n'importe quoi que Peck n'était pas armé puisque c'est nous qui l'avons attaqué à la sortie de son travail. Mais je jure pas sur ma vie, pas comme ça. Je lâche mon portable. Je palpe Peck et je le retourne pour vérifier qu'il n'a pas de canif à sa ceinture. Je me lève et il reste couché. Malcolm récupère le sac à dos de Peck que Tagoué a balancé sous la voiture bleue à côté. Il ouvre la fermeture éclair du sac et déverse son contenu. Des bandes dessinées de la panthère noire et le deuil de faucon tombent par terre. Y a rien. Tagoué se précipite vers Peck et j'ai l'impression qu'il va shooter dans sa tête comme si c'était un ballon de foot. Et en fait, non. Il ramasse mon portable par terre et décroche. À qui vous voulez parler ? Son cou est pris d'un spasme, mais ça n'étonne personne. Attendez, attendez, c'est pas moi. Attendez, une seconde. Il me tend le téléphone. Tu veux que je raccroche, Rouf ? J'en sais rien. Peck est toujours étendu dans le parking de cette école primaire, couvert de sang, et au bout du rouleau. Et j'ai pas vraiment besoin de répondre pour savoir que Descast ne m'appelle pas pour me dire que j'ai gagné au loto. Paumé et furax, j'arrache le téléphone des mains de Tagoué. J'ai envie de gerber. Mais mes parents et ma sœur n'ont pas fait ça. Alors je me retiens. Surveillez-le, je dis à Tagoué et Malcolm. Ils hochent la tête. Je m'éloigne un peu, comme si ça avait vraiment de l'importance qu'on ne m'entende pas, et je fais gaffe à rester en dehors du halo de lumière venant de l'enseigne de sortie. J'aimerais bien éviter de me faire choper en pleine nuit avec les mains en sang. Ouais. Bonjour, Victor de Deathcast à l'appareil. Je voudrais parler à Rufus Emiterio. Il massacre mon nom de famille. Mais ça sert à rien de le corriger. Il n'y a plus que moi qui porte le nom Emiterio. Ouais, c'est moi. Rufus, j'ai le regret de vous informer qu'à un moment donné, dans les prochaines 24 heures... 23 heures. Je l'interromps en marchant de long en large entre deux bagnoles. Il est plus d'une heure. C'est abusé. D'autres des cœurs ont reçu leur alerte bien avant moi. Oui, vous avez raison. Je suis désolé, admet Victor. J'essaie de la fermer, parce que j'ai pas envie de me venger de mes problèmes sur un type qui fait son boulot. Même si je pige vraiment pas pourquoi des gens postulent à ce travail. Soyons fous, et imaginons pendant une seconde que j'ai un avenir. Jamais de la vie je pourrais me réveiller un jour et me dire « Je pense que je vais prendre un taf de minuit à 3h du mat, où je ne ferai qu'annoncer aux gens que leur vie est finie. » Pourtant, Victor et d'autres personnes l'ont fait. J'ai pas non plus envie qu'on me dise de pas m'en prendre au messager, surtout quand ce messager m'appelle pour me dire que je vais claquer d'ici la fin de la journée. Rufus, j'ai le regret de vous informer qu'à un moment donné, dans les prochaines 23 heures, vous allez être frappé par une mort prématurée. Même si je ne peux rien faire pour empêcher cela, je vous appelle pour vous informer des options qui s'offrent à vous aujourd'hui. Tout d'abord, comment allez-vous? Vous avez mis un moment à répondre, est-ce que tout va bien? Il veut savoir comment je vais. Ouais, c'est ça. Je sens bien à son ton monotone qu'il se fiche de moi, autant que des autres des cœurs, à qui il doit téléphoner ce soir. Ses appels sont sans doute enregistrés et il ne veut pas perdre son boulot en se précipitant. Je sais pas comment je vais. Je serre mon portable dans ma main pour me retenir de le jeter contre la fresque représentant des gamins blancs et de couleur qui se tiennent par la main sous un arc-en-ciel. Dites-moi juste mes options. Ça devrait être intéressant. Victor me parle de la météo du jour. Il est censé pleuvoir avant minuit et plus tard aussi, si je tiens aussi longtemps. D'événements dont je n'ai rien à battre, surtout pas un cours de yoga dans le parc de Highline. Flotte ou pas flotte. De préparatifs d'enterrement et des restos qui offrent les meilleurs réductions pour les décœurs, si j'utilise le code du jour. Je zappe la suite car je stresse en me demandant comment le reste de mon jour final va se passer. Comment est-ce que vous savez? Je le coupe. Le jour final, comment vous savez? Vous avez une liste, une boule de cristal, un calendrier qui prédit l'avenir? Tout le monde continue à se poser des questions sur la façon dont Deathcast reçoit ces informations qui chamboulent la vie des gens. Les héros n'ont malheureusement pas accès à cette information, affirme Victor. Même si nous sommes tout aussi curieux que vous, nous n'avons pas besoin de le savoir pour accomplir notre mission. Encore une réponse toute faite, je parie n'importe quoi qu'il est au courant mais qu'il ne peut pas en parler s'il veut garder son job. Qu'il aille se faire voir. Wesh Victor, sois humain pendant une minute. Je sais pas si t'es au courant mais j'ai 17 ans, 18 ans dans 3 semaines. Ça te fait pas chier de savoir que je vais jamais aller à la fac, me marier, avoir des gosses, voyager, ça m'étonnerait? Tu te prélasses sur ton petit trône, dans ton petit bureau, parce que tu sais que t'as encore quelques décennies devant toi, hein? Victor se racle la gorge. Vous voulez que je sois humain, Rufus? Vous voulez que je descende de mon trône et que je sois honnête avec vous? Ok, il y a une heure, j'ai appelé une femme qui s'est mise à pleurer parce que sa fille de 4 ans allait mourir aujourd'hui. Et qu'après ça, elle ne serait plus mère. Elle m'a supplié de lui dire comment sauver sa fille, mais personne n'a ce pouvoir. Après avoir raccroché, j'ai dû demander au département de la jeunesse d'envoyer un flic chez elle, juste au cas où la mère serait responsable de la mort de sa fille. Croyez-le ou non, c'est ce que j'ai fait de plus répugnant dans le cadre de ce travail. Rufus, je me sens mal pour vous, vraiment. Pourtant, je n'y suis pour rien si vous allez mourir. Et malheureusement, j'ai encore un grand nombre d'appels de ce genre à passer ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une faveur et coopérer? Merde. Je coopère pendant le reste de l'appel, même si ce type n'avait pas à me parler des affaires de quelqu'un d'autre, mais j'arrive plus à penser à autre chose qu'à l'histoire de la mère et de sa fille, qui n'ira jamais à l'école. À la fin du coup de fil, Victor me récite la formule habituelle de l'entreprise, qu'on entend dans tous les nouveaux films et séries qui intègrent Deathcast dans le quotidien de leurs personnages. Deathcast est désolé de vous perdre, vivez pleinement cette journée. Nous découvrons dans ces premiers extraits les personnages principaux de cette histoire, ceux qui meurent à la fin, leur personnalité, comment ils apprennent leur mort à venir, et leur réaction face à cette annonce. La semaine prochaine sera l'occasion pour eux de se rencontrer. Et vous allez devoir attendre jusque-là pour découvrir dans quel contexte les personnes qui reçoivent leur annonce de mort imminente en viennent parfois à trouver une dernière chance de créer du lien avant le moment fatidique. Nous étions donc sur le roman « Et ils meurent tous les deux à la fin » de Adam Silvera. Vous pourrez toujours réécouter cette émission sur le site de Radio G, rubrique « Voix au chapitre ». En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr